Salut à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 34 du podcast de Rendez-vous Création. On va parler aujourd'hui de l'enregistrement d'un album de musique autoproduit. Et pour ça, je suis aujourd'hui avec Jaouen, les frères Jaouen, donc Olivier et Nico. Salut.
Salut tout le monde.
Salut.
Alors vous êtes tous les deux, vous constituez ce groupe. D'ailleurs, est-ce que c'est un groupe? Est-ce que vous appelez ça un groupe ou...
Non, c'est pas. Non, c'est pas un groupe. Non.
C'est un duo.
C'est un duo.
Ouais. Et le duo Jaouen.
Duo Jaouen. Avec des musiciens additionnés. Voilà.
Donc, Olivier et Nico, quelles sont vos spécificités dans le groupe? Commençons par Nico, par exemple.
Alors, moi, je suis guitariste, producteur de l'album aussi, arrangeur, joue un peu les claviers, les basses. Voilà, en gros.
Voilà, moi, Olivier, donc chanteur. J'écris les textes, les mélodies. Je participe à quelques instruments, piano, voilà, et j'apporte mes idées un peu sur les arrangements. Mais bon, principalement, le travail de l'arrangement, c'est Nicolas. Voilà.
Et vous avez enregistré un album qui s'appelle Tout.
Tout.
Tout, parce que 2 ans d'enregistrement,
quasiment 2 ans.
Deux années. 2 années de travail
intensif et entrecoupé quand même d'un 4 titres qui est sorti auparavant, qui donnait déjà les préliminaires en fait de l'album. Voilà.
Et alors ces chansons, on peut les écouter sur votre page MySpace, en MySpace. Tout cas quelques-unes. Donc myspace.com/Jaouen, J-A-W-E-N. Et grâce au label Believe, on peut aussi vous retrouver sur iTunes, Virgin Mega, Fnac Music en téléchargement.
Ouais, tout à fait, ouais.
E-Music, ouais. Ouais.
Alors, avant d'arriver à cette expérience, à l'enregistrement de cet album, vous avez sûrement eu une vie musicale bien chargée. Qu'est-ce qu'il y a eu en particulier?
Alors, moi, j'ai joué dans différents groupes de hip-hop sur Paris, dont un qui s'appelait Silent Beat. On a eu des expériences électro aussi avec Biz Garage. Donc là où on a fait des premières parties, notamment avec Boom Cello, Le Peuple de l'Herbe.
C'était en quelle année à peu près?
Ça remonte à...
Il y a 5 ans?
Ouais, 5-6 ans,
Biz Garage. Ans, ouais. Début 2000. Mais avant cela, on avait quand même...
On avait nos expériences
hein. Dado, groupe de rock, groupe de funk, à jouer des standards, des classiques.
D'Hendrix.
De Jimi Hendrix, des Rolling Stones, de James Brown, comme tous les ados qui prennent une guitare, une batterie et qui forment un groupe avec leurs potes. Et ça, c'était en fait les premières armes. Et après, les influences.
Après, moi, j'ai préparé une école de musique aussi. Donc là, j'ai étudié tout ce qui était jazz.
Ça commençait à être un petit peu plus pointu quand Nicolas est parti en fait dans une école de musique à Boston. Et à ce moment-là, dès son retour, on a commencé vraiment à former le duo Jaouen. Le duo Jaouen qui allait mettre en place l'album qui vient de sortir maintenant.
Et toi, Olivier, tu as aussi eu une expérience à l'étranger?
Moi, je suis parti, en fait, c'était par rapport à mes études. Je suis parti en Angleterre, j'ai fait les études d'anglais, donc je suis parti à Londres. Pendant que Nicolas était aux États-Unis, moi, je suis parti en Angleterre pour...
Il y a une petite séparation.
Séparation du duo, et parce que, voilà, on est attiré par cette culture, donc bon, on y va. En plus, là, c'est pas très loin, donc...
Bon, moi, c'est un petit peu plus loin, quand même.
Ouais. Ouais.
Et au départ, le goût pour la musique, il vient d'où?
Le goût pour la musique, il vient d'où? Alors déjà, on avait un grand frère qui mixait, qui était DJ. Donc je pense que ça vient de là, on l'entendait mixer, tous les trucs funk.
Lui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vinyles. Des vinyles de funk, de blues, de rock, de tous les styles. Et c'était marrant aussi où on habitait quand on était plus jeune. On avait une discothèque à moins d'un kilomètre de chez nous. Et donc très tôt, à l'âge de 13-14 ans, on allait dans la discothèque. Et là, on a entendu les premiers disques de funk.
C'était en plus l'époque funk à mort, quoi. Fat Larry's Band,
Il y avait un retour du funk, du disco. Et ce qui était marrant, c'était comme on était très jeunes, on essayait de rentrer le plus tôt possible dans la boîte de nuit. Ce qui est marrant, quand on arrive dans une boîte de nuit, au tout début, il n'y a jamais personne et le DJ passe des morceaux vraiment underground, que personne ne connaît. Et c'est là qu'on découvre les premiers sons et les premières envies musicales.
Alors, on va parler de l'enregistrement de votre album et de la démarche de création de cet album. Donc, a priori, écriture, enregistrement, publication. Dans le cadre d'une autoproduction, souvent on a l'écriture, l'enregistrement en même temps. C'est le cas pour vous ? Où il y a vraiment eu deux phases différentes, écriture d'abord, enregistrement ensuite ?
On trouvait les idées, puis directement on allait dans le studio.
Ça se mêle en fait.
Maqueter les morceaux, ouais, ça se mêle, ouais.
C'est sous forme de maquette, on a notre home studio et on s'enferme un peu, on fait tourner en fait le séquenceur, on enregistre, les idées viennent et au fur et à mesure on commence à canaliser des énergies et là on commence à structurer les morceaux. Mais c'est un mélange, il n'y a pas vraiment de...
Mais bon, il y a quand même une base d'écriture avant quand même la production sur le séquenceur et tout. Hein. On trouve les grilles, on trouve les idées, après on se dit bon bah tiens, on va aller maqueter le morceau.
Et au niveau de l'équipe, donc pour l'album, pour commencer, il y a vous deux, Nicolas, Olivier, le duo Jawen. Mmh. Et tout à l'heure vous parliez de musiciens additionnels, ça en particulier.
Alors à la batterie, il y a Yann Cortella qui est venu poser des batteries. Qui a mixé l'album aussi d'ailleurs.
Qui mixe l'album.
Il y a Cyril Taïeb au clavier, il y a Eric Prudhomme aussi.
Musicien de jazz.
Mathieu Tanquerel à la basse. Et il y a eu pour un morceau Cédric Moglia. Donc pour les musiciens additionnels, il y a eu ça. Il y a aussi une petite fille qui est venue faire des chœurs sur 1-2-2-5. Et puis une amie aussi qui est venue poser quelques voix.
Ouais, et en fait tous ces musiciens viennent nous aider, entre autres pour jouer des parties que nous on ne pourrait pas faire. On joue tous les instruments, mais à un moment donné quand on veut demander une batterie bien spécifique comme sur Out of Control ou bien Straight Ahead, là on fait vraiment appel à un batteur, un vrai batteur pour dire d'amener en fait une vraie vibe sur le morceau.
Vous faites des concerts à partir de cet album ?
Les démarches commencent pour trouver des scènes. D'ailleurs, l'appel est lancé. Là, on est vraiment, on a vraiment envie de partir sur scène, de développer maintenant l'album tout sur scène.
D'accord.
On travaille sur
la scène.
Un tourneur pour.
Si un tourneur peut nous aider.
Tourneur, label. Des personnes en fait intéressées par notre projet et vraiment nous là on est complètement ouverts pour partir sur la scène et enchaîner les dates
et toute les musiciens aussi j'imagine
on a toute l'équipe
est prête, du CD,
l'équipe du CD
ça serait les mêmes tout à fait. Les mêmes personnes Yann Cortella qui est batteur sur l'album serait à la basse. Donc, parce que lui en fait il est plus batteur il est venu jouer de la batterie uniquement sur ce projet.
Alors au moment d'écrire les chansons, vous avez commencé une phase d'écriture, vous avez dit maintenant on écrit des chansons, c'est ça ?
Ah ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Alors on a fait Let's Go, il faut qu'on sorte l'album.
Là c'était, à un moment donné on s'est dit, il faut maintenant notre projet, on part sur le projet et on travaille dessus. C'est vrai que ça a été quand même...
Vu qu'on travaillait pour différentes...
On a fait beaucoup de collaborations avec d'autres musiciens, moi par exemple j'écrivais des textes. Je posais des voix pour certaines personnes et on n'arrivait jamais vraiment à canaliser notre énergie sur notre propre projet.
Et vous aviez déjà des chansons prêtes ou quasiment prêtes ?
On avait
maquetté
deux, trois titres qu'il fallait vraiment approfondir.
Mais on avait toujours quand même des morceaux qui étaient sur des maquettes, mais on n'avait pas un projet complètement sérieux. Et vraiment travailler vraiment comme l'album tout en fait.
De toute façon, à un moment quand tu sors un album, t'es obligé de te mettre à 110% dedans. pour qu'il y ait un résultat. Sinon, c'est quand même compliqué à gérer si tu travailles à côté pour d'autres artistes. Si,
ouais, voilà. Ouais.
Tu sais, à un moment,
c'est du 200% et ouais. On se rend compte que si on n'est pas à 200% sur son projet, eh ben, t'as jamais le temps d'aller jusqu'au bout de tes chansons, de tes mix.
Parce que tu dois aller enregistrer ailleurs,
tu prends du temps pour les autres et c'est vrai qu'à un moment donné...
On a fait stop, on arrête tout ça, on arrête d'aller jouer avec les autres, faire d'autres projets, on fait notre album.
Et on est reparti en province pour finir l'album en fait.
Et les nouveaux morceaux, ils sont venus comment ?
En travaillant, en cherchant des idées.
On a commencé à avoir un peu plus de matériel en fait. Ce qui était difficile au début, c'était trouver notre bonne orientation de travail.
Ah, c'est vrai, ouais.
On est. D'ailleurs, c'est Yann Cortella qui nous a bien montré la route à prendre quand on a rencontré ce musicien. Il commençait à nous expliquer que, ok, votre 8 pistes à bande, c'est génial. Mais à un moment donné, passer aussi sur des séquenceurs, sur des préamplis, des compresseurs.
Et, il nous a aiguillé dans la façon de produire un album autoproduit.
Lui nous
en
a
fait.
Vraiment conduit vers l'album.
Donc c'est en construisant votre home studio, c'est en...
Exactement.
En gagnant du confort que finalement les idées ont pu venir plus facilement. Vous êtes senti à l'aise, c'est ça ?
Ouais, ça aide, ouais.
Ça aide complètement. Vu que là, on passe d'un 8 pistes à bande à 12 pistes, 16 pistes, on peut déjà un peu plus
développer les idées. D'arrangement. On peut tester des choses. Déjà, ça vaut moins cher que les bandes, les séquenceurs, les ordinateurs.
Ouais. Et vous êtes parti souvent plutôt du texte, plutôt de la musique ?
Musique. Ouais, toujours musique.
Ouais, c'est part de la musique.
On trouve une idée de grillé,
il y a une recherche de...
On arrange, et puis après, toi, Olive, tu viens, puis des fois, tu lâches un...
Voilà,
tu lâches un truc freestyle, comme
on
ça.
On fait un freestyle sur une boucle, sur un enregistrement, et on commence à dépouiller les idées. Et après, par rapport à l'écriture de la mélodie, ça part comme ça, en fait. Sur un freestyle, sur un dictaphone, tout bêtement. Et après, on commence à écrire. J'écris un texte avec suivant les directives mélodiques qu'on peut trouver sur le freestyle en fait.
Et vous avez aussi un moment à choisir les instruments.
En général, quand tu fais tes morceaux comme ça sur tes maquettes ou tes séquences, t'as quand même dans ta tête, tu sais à peu près ce que tu vas avoir. Tu sais que tu vas avoir batterie, tu vas mettre. T'aimes bien les rhodes, tu mets de la basse.
Voilà.
Si on peut mettre des cuivres, ça serait pas mal de mettre des cuivres. T'as quand même une idée,
une idée qui
instrumentale, en fait. À mon avis, pour beaucoup de musiciens, c'est t'as quand même ta recette, tu vois.
Même vu qu'on est musicien, notre basse c'est quand même une écriture acoustique au départ. Donc obligatoirement, ça va tourner avec une guitare, avec un piano et une batterie. Donc là, on va pas s'orienter sur une machine qui va nous développer le morceau alors que notre formation c'est autour des instruments quand même.
Avant de commencer l'interview, on parlait de votre style très varié.
Dur le style.
Voilà.
Alors on va faire une thèse, Jaouen.
On va pas forcément relancer la discussion complète, sinon ça prendrait pas mal de temps. Mais par contre, ce qu'on disait, c'est que la structure de vos morceaux est plutôt pop, c'est-à-dire couplet-refrain. Et donc ça, c'est un choix volontaire.
Ouais.
Parce que vous pourriez faire justement le choix inverse, des morceaux beaucoup plus longs avec des
bandes. Notre truc, c'est quand même les. On a quand même beaucoup écouté les mélodies, tu vois, Bob Marley, les Stones.
Voilà, on est quand même
dans un format couplet refrain.
Voilà, on est dans.
C'est
ce
quand
format.
Même notre culture à la base.
On n'est pas, on n'est pas dans le tout ce qui est musique expérimentale.
Non,
on est beaucoup plus. On est dans le registre pop dans nos écoutes. On est dans le registre pop.
Alors on disait tout à l'heure que la phase d'écriture et la phase d'enregistrement étaient plutôt mêlées. Est-ce que quand même à un moment il y a quelque chose que vous appelez la maquette et qu'après vous refaites?
C'est sûr que au début les morceaux, on les maquette. plus, on a une idée quand même assez, assez simple du morceau. Et à un moment, bon, on le travaille, on commence à le gonfler le morceau. Et c'est quand on commence à le gonfler, bah, que là, on appelle un tel, pour venir jouer les instruments qu'on désire en fait.
Même si à travers ces maquettes, ce travail, on peut partir sur une orientation musicale, et après au fur et à mesure, sur le travail que l'on fait sur la maquette originale, c'est incroyable. Il y a un morceau comme « I Like It ».
Au début, il était acoustique, ce morceau.
C'était un morceau qui était complètement acoustique. Et à un moment donné, Nicolas a fait tourner une boucle, je sais pas, au bout d'une minute trente, et on a découvert le morceau à ce moment-là, dans une boucle. Et on a fait, non, le morceau, il est là.
Et donc, il est carrément parti autrement, le morceau.
Et le morceau, il est parti sur une voix vraiment autre que l'original.
Donc, vous l'avez réécrit.
Bon, on l'a réarrangé.
On l'a réarrangé, voilà.
Ouais. On s'est pas mal pris la tête, d'ailleurs. Pour retrouver l'idée qu'on était en train de développer, parce que ouais, c'était plus.
Mais c'est marrant, c'est là, parce qu'après, pour trouver le style aussi, le style qu'on peut faire, il y a aussi peut-être de ça en fait, ça vient peut-être aussi de ça, parce qu'on part peut-être sur une idée qui est peut-être classique, pop, on va dire assez, assez simple, et en fait, les idées créatrices en fait deviennent autres. Que
le point de départ.
Le point de départ qui est un peu, tiens, ça pourrait sonner comme un tel. Bien sûr, et c'est assez drôle.
Ouais.
Là, sur l'album, il y a 10 titres. Est-ce que vous avez dû faire une sélection et n'en garder que 10? Est-ce que vous en aviez beaucoup plus en stock? Est-ce que vous avez choisi de sortir l'album au moment justement où vous aviez 10 titres? Comment ça s'est passé?
Bon, on avait un petit peu plus de. On avait peut-être 13-14 titres,
ouais.
Mais bon, c'était quand même ces 10 titres qui étaient bien travaillés. On a fait, voilà, c'est bon, on les a, quoi. On n'avait pas non plus 20 titres en stock.
Non, on n'en avait pas, non, on n'avait pas 40 à 50 morceaux qui traînaient.
On s'appelle pas encore Prince à sortir les morceaux à tout va.
Non.
Et les morceaux que vous n'avez pas sélectionnés, c'est pour quelle raison en général?
Moi, parce qu'on aime. On kiffe pas plus que ça.
Ouais,
en fait,
c'était, ouais, voilà, c'était pas plus que ça. C'est.
T'es là, non.
On préfère en mettre 10.
Tomber,
vraiment, vraiment qu'on kiffe et qui sont là, ils sont bien écrits, ils sont bien mixés, bien arrangés. Plutôt qu'en rajouter 3 ou 4 pour grossir un album qui, au lieu de faire 35 minutes, va faire 50 minutes. Et au bout du compte, le projet, on est quand même moins content du résultat parce qu'il y a 3-4 morceaux qui sont là et qui, au bout du compte, on se demande, ouais, on a peut-être pu les enlever. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, hop, on les met pas, quoi.
Peut-être en live.
Peut-être, c'est clair, ouais.
Qu'est-ce qu'on trouve dans votre home studio?
Alors, dans notre home studio, on trouve une batterie. On trouve des claviers, on trouve des guitares, une basse, un séquenceur. Qu'est-ce qu'on trouve? Des petites percus, des petits œufs.
Des boîtes à rythme.
Ouais, boîtes à rythme.
Des disques, plein de disques. Vinyle, CD. Qu'est-ce qu'on trouve encore?
Une platine CD aussi.
Une bonne platine CD.
Pour choper des pieds de grosses caisses à sampler. Et quoi d'autre?
Platine vinyle.
Bah, déjà là, c'est. Si, ouais, aussi compresseur,
après du
micro-champ,
du bon matériel d'enregistrement,
pré-ampli, tu vois, EQ, compresseur, tout ça, quoi.
Donc il y a des prises de son sur vos instruments, il y a aussi des échantillons que vous récupérez.
Ouais. Bah, on sample sur les pour des pieds de grosse caisse, pour des sons de caisse claire, on essaye de les choper sur des CD en fait.
Voilà, par exemple sur un morceau comme America, les sons de les pieds de grosse caisse viennent de vinyle, de disques de funk, disques de funk. Sur Sex on the Beach, on a un sample d'Al Green. Donc là, le travail du son, en fait.
Et justement, l'arrangement, comment est-ce qu'il y a une méthode particulière? Est-ce que Vous commencez par exemple seulement avec vos instruments, ensuite vous rajoutez d'autres sons. Est-ce que c'est un peu l'inverse? Est-ce que c'est les deux en même temps?
En général, comment ça part donc déjà, il faut trouver la grille. Donc déjà, il y a la grille harmonique, il y a les accords. Quand on a la grille harmonique, moi j'essaie de penser un beat. Voilà, tu prends des sons de voilà, grosse caisse, caisse claire, charlet. Tu construis un beat, tu mets ton harmonie. Hop, après tu colles une basse. Bon, déjà, le morceau il commence à prendre une petite tournure, t'entends quoi. Puis après, tac, tu commences à poser une nappe de clavier. Essaye de trouver une couleur. Et après, toi, Olive, t'arrives. Et puis voilà, là, tu commences à poser la mélodie. Et quand la mélodie est posée, là, déjà, le morceau, on peut lui donner. On peut commencer à lui donner une couleur. Parce que la mélodie, c'est, voilà, ça guide vachement aussi le morceau. C'est lui qui va un peu teinter le truc. Et puis après, tu vas trouver les idées par rapport à la mélodie.
Après, voilà, la suite vient après la mélodie. Une brève écriture sur le texte. Et après, on avance encore plus sur
ouais,
le morceau.
Ouais, ouais.
Dans cette phase d'enregistrement, vous avez rencontré des problèmes particuliers ?
Des fois, il faut réussir à booker les musiciens. Ouais, mais bon, en général, ils ont été super cool.
Ouais, ils ont été super cool. Ils ont été dispo.
Ouais, carrément, ouais.
Ouais, vraiment. Et les conneries qu'on peut trouver sur un ordinateur. Ça peut prendre la tête parce que quand on balance le morceau, on se demande pourquoi à un moment donné plus rien ne fonctionne. Problème technique informatique où là c'est pas du tout ton registre. Parce qu'en fait on utilise notre séquenceur comme un magnéto. Nous on va pas dans la pure technique du logiciel en fin de compte.
C'est quel logiciel?
C'est Pro Tools. Et voilà, on l'utilise vraiment purement comme un magnéto. Et donc c'est vrai que quand il y a des petites galères, des conneries qui se mettent là...
C'est plus de l'ordre du plantage ou de l'utilisation?
Non, ça plante, ou voilà, c'est l'informatique. C'est, ouais. Voilà, c'est pas la bande où on sait vraiment, on fait record et c'est parti.
Mais bon, en général, il n'y a pas eu de souci. Hein.
C'est pas le souci.
Puis... T'as un moment quand t'enregistres, hein, tu mets tes micros, tu vois, s'il y a un batteur, tu mets les micros au-dessus de la batterie, bon, vas-y, envoie, il joue, et puis c'est parti. Hein. À un moment, il n'y a pas non plus 10 000 façons de jouer, d'enregistrer. Hein. À un moment, vas-y, lance, et puis t'y vas, quoi.
Est-ce que vous avez une phase distincte de mixage, hein, suite à l'enregistrement?
Ah ouais, carrément.
Vous y passez beaucoup de temps, j'imagine?
Bah déjà, c'est pas nous, ça, on le passe à quelqu'un... prends les pistes et mixe.
Voilà, ouais, c'est le mixage. Là, c'est vraiment encore une histoire technique. Et là, on n'est pas du tout.
Si, on pourrait le mixer, mais bon, à un moment, t'es à 110% dedans du matin au soir. Tes morceaux, tu peux plus les entendre.
Ouais, à un moment donné, tu t'écartes un petit peu de tes morceaux. Ouais. T'aimes bien les refiler à une autre personne pour dire. Est-ce que ça t'intéresse de mixer? Est-ce que quand tu passes énormément de temps sur... C'est vrai qu'on n'a plus les oreilles...
On peut plus avoir les oreilles aussi fraîches qu'une personne extérieure, en fait.
Donc, qui est-ce qui fait ça?
Yann Cortella, qui
est un très bon mixeur.
Qui mixe très bien, qui a super bien mixé l'album. Il a joué et mixé vraiment chapeau.
Quoi, le 4 titres était... Le premier 4 titres et donc ils sont aussi dans...
Voilà, il y a 4 morceaux qui ont été mixés dans un studio, à la Fred Studio, et les 6 autres morceaux ont été mixés chez Yann Cortella.
Et vous lui donnez les pistes et vous lui dites vas-y fais le mixage, ou bien au contraire il y a des échanges assez réguliers sur
on lui file les pistes, on lui fait confiance,
il connaît maintenant notre univers musical. Et là, on lui fait confiance. On lui
prend les choix.
Là, on te fait confiance. Ça marche, vas-y.
Et pour le mastering?
On est à Translab. Donc, c'est un bon... C'est une bonne société de mastering.
Donc, vous nous expliquez le concept du mastering?
Alors, moi, je comprenais rien au début au mastering. Je comprenais pas quoi. J'étais là, mais à quoi ça sert, le mastering? Et en fait, le...
En deux mots.
C'est vrai que le mastering, bah en fait, on pourrait comparer ça. C'est comme si tu faisais un meuble, tu vois, puis tu le meuble il est fini, et puis si tu touches le meuble, il y a encore un petit peu de bois qui, comment on appelle ça là, tu peux te mettre des échardes là.
Ouais, ouais.
Et bah le mastering, le gars il va venir polir
il
un peu le bois,
polir en fait.
Il va mettre le vernis et
il va vernir, il va remonter les niveaux, il va.
Et donc le mastering c'est super, c'est vrai que c'est super important, ouais. C'est efficace quand on pourrait ne pas le croire, et puis finalement ouais, c'est
une différence énorme.
Quand on avait mixé le 4 titres, nous, à La Frette, c'est un bon studio, La Frette, et on avait dit à Yann, vu le budget, on va aller faire le mastering dans un petit truc, quoi. Et c'est, lui, il nous a dit, ouais, laisse tomber, il faut aller masteriser dans un quand même un truc assez gros pour avoir un bon résultat. Et c'est vrai que c'est énorme.
C'est énorme, ouais.
Le travail d'un bon mastering.
Et vous avez voulu sortir l'album, presser le CD avant, ou bien vous avez publié d'abord vos titres sur MySpace ?
On a sorti le CD avant. Ouais, on a sorti le CD avant, et puis après on a mis les titres sur le Space. Ouais.
Donc l'idée de sortir le CD, c'est d'en vendre quelques-uns, j'imagine ?
Ouais, bon là pour l'instant on n'a plus le droit. Si quelqu'un de Believe nous écoute, on ne vend pas nos CD. On va avoir un procès.
Non, ouais, c'était au départ, ouais, pour de la promotion aussi, pour tout ce qui est label, radio, et après, et pour la suite, bon, comme on est en autoprod, partir sur les concerts et commencer aussi à trouver des gens, parce que quand on commence à jouer, les gens nous demandent où est-ce qu'on peut trouver votre album, où est-ce qu'on...
Là, on l'a, tiens.
Et nous, on l'a. Et voilà.
C'est comme ça que vous avez trouvé Believe ?
Ouais. Ouais, ouais. Bah, Believe, c'est par. Là, c'est plus par Internet. Hein.
Par le net, ouais.
Et là, t'envoies des MP3, tu fais bon, est-ce que ça vous intéresse ? T'envoies 4 morceaux au type de la production, quoi. Qui,
ouais, ouais, ouais.
Qui choisit.
Tout bêtement,
les artistes,
en allant sur le site, voilà, Believe, clac, et on remplit.
Donc, vous avez été retenu ?
Ouais, ouais, ouais.
On a été retenu.
Et donc, en gros, qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Quels sont les services proposés ?
Alors, eux, ils nous distribuent sur des plateformes de téléchargement. Ils travaillent avec iTunes, Virgin Mega, Fnac, Music, Napster, tous les sites de téléchargement, en fait. Donc déjà, ça, c'est énorme. On peut nous trouver mondialement,
Et ça marche ?
On ne sait pas encore. On va bientôt avoir les chiffres.
Ça a commencé quand ?
Ça a commencé au mois d'août. Mm-hmm. Au mois d'août.
Ouais, donc c'est
récent. Septembre.
Ouais, c'est tout frais. Hein.
C'est tout frais. Ouais.
Là, maintenant, il faut qu'on lance un buzz. Il faut qu'on aille jouer. Il faut qu'on promotionne.
Voilà. Ouais.
Voilà, donc c'est pour ça notamment que vous cherchez un tourneur. Et ouais. Vous avez déjà joué les titres live ?
Non, jamais, non.
Non, non.
Donc ça veut dire qu'éventuellement il y a des adaptations à faire.
On verra bien. Là, je sais pas. On peut pas encore te répondre. C'est quand on va commencer à les jouer qu'on va voir comment ça va se passer. Mais bon, obligatoirement ils vont avoir une autre couleur que l'album. Déjà, il y a pas.
Ça sera plus brut.
Ouais, ça sera beaucoup
plus brut, plus live. Donc, ouais.
Pour l'instant, vous avez des retours sur MySpace déjà.
Ouais, ouais, ouais.
Vous avez quoi d'autre comme genre de retour ?
MySpace.
MySpace.
Et si, puis les gens au début, avant d'être signés, qui ont acheté le CD, on en a vendu pas mal quand même.
Vous avez fait comment pour les vendre justement ?
Bon, avec des potes.
Des potes, des amis des amis, ainsi de suite.
Des gens qui nous connaissent,
connaissent. On dépose des CD dans des endroits où on peut écouter de la musique. Et voilà, on est intéressé par le groupe. Où est-ce qu'on peut trouver l'album ? Et voilà. Vraiment du bouche à oreille.
Ouais. On a dû en vendre, je sais pas, avec le 4 titres, 300 quoi.
10 000, 15 000 ?
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 300, 400, on a dû en vendre. Ouais.
Ouais.
On va passer au petit questionnaire Rendez-vous création. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école qui vous sert le plus ?
Moi je vais dire l'anglais.
Ouais.
Mais,
c'est
clair.
Voilà.
Même réponse que Almo.
Ah, d'accord.
L'épisode précédent.
Ah ouais. Bah peut-être parce que ouais, après les chanteurs français, quoi, les Français qui chantent en anglais. Voilà, ouais, c'est vraiment ouais, c'est l'anglais, l'école. Ouais.
Et toi, Nico?
Oh, le français, ouais. Le français, ouais, philo et tout. Ouais, histoire, la culture, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris avec l'expérience qui vous sert le plus?
L'expérience qui nous sert le plus.
Ouais, faire un peu de place autour de nous, en fait.
De pas être trop gentil.
De pas être trop gentil, de faire la place.
Sur les ondes négatives.
Voilà. Ouais, les gens vraiment, peuvent, à un moment donné, écarter vraiment.
Les bad vibrations.
Ouais, voilà.
Quoi, qui peuvent entourer les projets.
Tout ce qui est un peu parasite, qui peut retarder aussi certaines progressions et certains élans, en fait. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre démarche de création?
De le voir plus simple.
Être plus simple, ouais.
Ouais.
Aller à l'essentiel.
Aller à l'essentiel, ouais. Chercher moins se prendre la tête, quoi.
Moins
essayer d'aller
tête,
plus vite.
En
ouais, sachant d'aller plus vite.
Aller plus vite et en sachant, comme on tourne en home studio, on n'est pas, on peut pas s'attendre à avoir un orchestre à cordes, un big band avec nous. Donc faire aussi avec les moyens du home studio.
Qu'est-ce que vous allez faire différemment à l'avenir?
Ouais, non, pour l'instant, on va rester sur le même schéma. On va rester sur le même schéma. On mettra peut-être plus d'acoustique.
Ouais.
Sur les futurs enregistrements, c'est encore une fois par rapport à cette montée, en ayant plus de matériel, plus de son, plus de micro. En fait, c'est ce qui nous fait, c'est le matériel qui fait aussi évoluer
ouais, c'est vrai,
les techniques d'enregistrement. Donc voilà, ça sera plus dans tout ce qu'on va avoir en plus d'instruments, de guitare, de piano, et ce sera plus. Ouais, voilà, ce sera plus dans ce sens-là.
Et pour terminer, si un débutant vous demandait un conseil.
Travaille, mon gars. Ouais. Et bon courage.
Travaille, ouais.
Beaucoup. Non, ouais, il faut travailler, ouais.
Beaucoup de travail, ouais.
Il faut apprendre la musique, il faut.
Apprendre un instrument, kiffer, se faire plaisir.
Ouais, et puis travailler, quoi, pour apprendre. Pour même apprendre l'harmonie, puis après créer, essayer de. On a commencé à connaître un peu la musique, composer, tous les jours faire un morceau, se forcer à faire des morceaux pour chercher en fait, et pour développer son côté création.
Merci Olivier, merci Nicolas.
Merci.
Ciao.
Salut.